je devais normalement vous partager un peu tout ce qui était reçu, parce que nous croyons que le Seigneur a dit pendant cette semaine de jeûne et prière qui se termine aujourd'hui. Et puis, en résumant, hier soir et ce matin, pendant le temps de louange, je me disais, mais si je livre ça en vrac maintenant, ça risque d'être un peu lourd et d'un oublié. Alors, on avait proposé avec l'équipe pastorale de le mettre sur le site, mais je me dis, peut-être ce qui serait bien aussi, c'est que on demande à nos secrétaires d'en faire un petit feuillet pour vous le remettre la semaine prochaine, mais ça sera déjà sur le site. Il y a déjà pas mal de choses. Si vous avez reçu des choses particulières, parce que je crois vraiment quand l'Église jeûne et prie, Dieu parle. Et il a dit des choses, il y a vraiment des défis pour nous. Il y a aussi de grandes assurances qu'il veut donner à son peuple, mais aussi de grands défis, une grande métamorphose. Hein, l'idée du papillon qui sort, ça revient énormément. Dieu veut faire naître un nouveau bébé, une nouvelle vie, un nouveau style de fond et de forme. Alors, acceptons cela. Pour tous ceux qui ont eu des enfants, vous savez que quand il arrive, c'est pas comme un jouet qu'on peut, on le prend à une heure ou deux, puis on le met au placard, on va le rechercher. Ça bouscule toute la vie. Ça bouscule toute la vie. Je crois que le Seigneur veut faire ça aussi dans notre communauté. Donc, on vous partagera tout cela. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez aussi reçues de nous le dire. Plusieurs parfois en fin de culte disent, oh, j'avais vraiment cette conviction là, et puis j'ai pas osé. Et donc, et ça c'est dommage parce que si le Seigneur dit quelque chose à son Église, c'est pas juste pour que tu le gardes, mais c'est pour l'édification du peuple. Donc, osons partager ça ensemble. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous une nouvelle compétence, mais je vais le faire très, très paisiblement parce que on va pas être trop long. On a un témoignage, le couple stagiaire va nous rejoindre pour la fin de ce culte-ci, puis ils seront avec nous, notre culte. Donc on va leur donner quelques minutes pour se présenter. Donc je voudrais juste introduire paisiblement ce qui est devant nous. Une introduction qui sera, je pense, importante pour la suite de ce qu'on va partager. Alors, le monde dans lequel nous vivons est un monde de plus en plus fragmenté. Et de par ce fait, il est en train d'émousser le tranchant de nos engagements. Le monde dans lequel nous vivons, si coupé, si fragmenté, vient réduire un peu le sens de notre engagement et vient un peu estomper nos objectifs. Objectifs d'engagement, tout ça est en train de se liquéfier. Hein? Notre culture est tellement marquée par ce qu'on appelle la prolifération des choix. On propose sans cesse beaucoup plus de choix. La multiplication des changements autour de nous, eh bien, on voit que ça déstabilise notre identité, les valeurs et notre perspective. Dans un livre appelé L'appel de Os Guinness, les vieux chrétiens parmi nous ont probablement son livre de méditation, hein, Tout pour qu'il règne, un auteur très intéressant. Il a forgé un mot nouveau, la pluralisation, pluriel, pluralisation. Hein. Il décrit le mécanisme de la prolifération, la multiplication des options. On a de plus en plus d'options. Et il dit, dans ce livre, la prolifération des options qui touche la sphère privée de la société à tous les niveaux. Ça nous touche à tous les niveaux. Au niveau des biens de consommation, jusqu'aux visions du monde, aux religions, en passant par les relations humaines. On a de plus en plus de choix. Hein? Je prends deux exemples. Au niveau de la consommation, vous allez dans un magasin, vous voulez choisir un paquet de chips. Eh bien, aujourd'hui, dans certains magasins, ça va vous prendre du temps de choisir. Hein. Je me souviens quand on avait des amis roumains qui sont venus après la Révolution, ils ont pleuré dans nos grandes surfaces. J'ai eu l'occasion d'aller en Roumanie. Si tu veux une boîte de petits pois, il y a une boîte de petits pois. Et encore, elle était périmée depuis au moins 5 ans. Quand ils sont venus chez nous, rien que pour voir le rayon de nourriture pour les animaux, ils ont pleuré. Prolifération. Prolifération des relations. À un certain moment, avec Laurence, on a dû dire à certaines de nos filles, et une en particulier, je pense qu'elle était ado, sur, je pense que c'était Facebook, elle avait déjà 1500 amis. 1500 amis, et c'est déjà d'en avoir 10. Hein. Donc on a dit, on va diminuer. Prolifération des choix. Et cet auteur affirme que ça devient l'idolâtrie moderne du choix. Et ça réduit nos devoirs à des options. Le sens du devoir dans nos sociétés, ça ne devient plus que des options et ça atténue le sens de l'engagement et la notion de continuité. Pensons au mariage. Le sens de l'engagement, de la continuité, il y a tellement de choix. La Bible propose une solution à ce dilemme. Une prise de conscience croissante de notre identité de personnes qui ont pour vocation d'être disciples du Christ, radicalement. La Bible nous dit que la solution à cet éparpillement, cette fragmentation de la vie, c'est de prendre conscience de notre engagement en tant que disciples de Jésus. Parce que quand j'oublie, quand je perds cette conscience de ma vocation, de ma consécration radicale à Jésus, je vais me perdre en chemin, dans un monde aussi aguichant et séduisant. Hein, je risque de me perdre. Aussi bien sur le plan individuel que communautaire, on risque de jouer souvent sur les deux registres, prendre les deux règles. Le monde et celle de Dieu. Et ça, on va en parler pendant ce chapitre, c'est ce qui se passe quand je cloisonne ma foi. Quand c'est un volet de ma vie, un tiroir de ma vie, quand il y a des compartiments bien étanches, et que je détache ma foi de tous les autres aspects de ma vie. Que ma foi n'a plus rien à voir avec mon travail, mon argent, mes amitiés, mes responsabilités conjugales et parentales. Quand il y a un divorce entre le spirituel et ce qu'on appelle le séculier, séculier, les choses du siècle, les choses d'en bas. Quand il y a une coupure entre ce qui est spirituel et puis les choses d'en bas. Eh bien, très souvent, ça aboutit à des grandes différences entre ce que je crois et ce que je vis. Et je commence à m'habituer à vivre avec ces inconséquences. Je crois certaines choses, mais tout compte fait, j'en vis beaucoup d'autres. Et là, je connais des chrétiens, je prends un ou deux exemples, qui n'ont pas de pain, ils sont ivres plusieurs fois par jour. Mais ils servent Dieu, ils vont à l'église. On cloisonne. Comme si ma manière de vivre à la maison, de manger, de boire, n'avait rien à voir avec l'évangile. C'est Ambroise, un des pères de l'Église, qui disait « Vous êtes, nous sommes, un imposteur lorsque votre profession de foi est en désaccord avec votre conduite pratique. Quand ce que tu crois est tout à fait différent de ce que tu vis. Mais je vois dans l'Écriture une approche décloisonnée de notre vie. Il n'y a pas de compartiment. Ma foi en Jésus-Christ, ma vie avec Jésus-Christ, elle impacte tout. Elle impacte toute la dimension de mon existence. Les côtés les plus routiniers de ma vie quotidienne. Être serviteur du Christ, c'est justement ne pas être fragmenté, divisé. J'ai dit que je prenais deux exemples. J'en prends un pour que vous sachiez que j'ai dû lutter, je dois continuer à veiller à ce que la foi touche. C'est que Laurent s'est même bien rappelé ça. Si vous voulez voir Laurent Quéron pêcher quand il était jeune, allez le voir jouer au foot. Comme si, quand je mettais l'équipement de foot, j'étais plus chrétien. La Bible nous dit que la foi en Jésus-Christ doit impacter tous les aspects même routiniers de notre vie quotidienne. Ma vie spirituelle ne se limite pas à un culte spirituel, à quelques exercices spirituels, à la participation de quelques activités de l'Église, à des études bibliques. Oui, ces choses-là, elles nourrissent ma foi. Mais la vie de piété, elle doit se manifester dans l'ordinaire de mon quotidien. Dans l'ordinaire de notre boulot, de ma vie familiale, les routines les plus simples. Il y a des choses qui nourrissent ma foi, et puis d'autres qui se manifestent dans ma vie quotidienne. Ne considérons pas notre vie avec Jésus comme un ajout à notre vie dans le monde. Elle doit être au contraire ce qui nous met en mouvement, ce qui est la source de notre être et de notre vie, ce qui imprime à notre existence une force, un mouvement et un sens. Et quand je développe cette culture biblique, après dire un peu, on définira plus tard, une vision holistique de la vie chrétienne, tout est touché par le Christ, eh bien je comprends que ce qu'on a appelé la dichotomie, la séparation entre le profane et le séculier, le religieux et le profane, ça ne tient pas la route. Tout est spirituel. Tout est vécu avec et pour le Seigneur. Ma façon de dépenser l'argent, ma façon d'exercer ma profession, est une affaire tout aussi spirituelle que de la même manière que je prie. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Tout dépend de ce sur quoi mon cœur se porte. Le séculier, les choses d'en bas, deviennent spirituelles lorsque mon cœur cherche à vivre pour le royaume de Dieu. Les choses d'en bas deviennent spirituelles quand mon cœur cherche à y établir les valeurs éternelles. Ce qui se passe pour un travail séculier, que ce soit dans une usine ou dans un bureau, ça devient une activité spirituelle si le cœur de l'ouvrier, de l'employé, du professeur, de n'importe qui, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez notre problème quand on cloisonne? Mais l'inverse est vrai aussi. Des activités qui semblent apparemment spirituelles, elles deviennent quelque part séculières et profanes, sans valeur spirituelle, quand le cœur de l'intéressé ne cherche pas le royaume de Dieu. On peut très bien s'adonner à des choses spirituelles, le pastorat, la musique, être missionnaire, être engagé dans tel et tel ministère, avec comme motivation, bien sûr on ne le dit pas, hein, parce que le dimanche on va quand même bien, ou d'autres, à d'autres moments, peu importe. On peut très bien avoir un service qui a l'air spirituel, et pourtant la motivation, elle est d'en bas. Je cherche à bâtir la plus grosse église, je cherche à nourrir mon identité à travers le ministère, je cherche à me faire reconnaître. Vous voyez, la disposition du cœur. Ce n'est donc pas la nature de notre travail, mais la disposition qui compte pour le royaume de Dieu. C'est ça qui diffuse le royaume de Dieu. Moi, je trouve ça tellement libérateur, de savoir que tout ce que je fais peut contribuer à la gloire de Dieu. Je veux dire, il y a plus rien qui est vain. Tu lances ton petit-fils et le lance est pas top. Tu peux faire ça pour la gloire de Dieu. Ou tu demandes à ta femme de le faire et tu pries pour elle. Hein, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais on peut tout faire pour la gloire de Dieu. Qu'il s'agisse des basses besognes ou des tâches nobles, de l'ordinaire ou de l'exceptionnel, du spirituel ou du séculier, de la contemplation ou de l'action. Paul dit que vous mangiez ou que vous buvez, il y a moyen pour nous, il y a une manière de mastiquer à la gloire de Dieu. Mais oui, c'est ça que Paul est en train de dire. Tu peux manger pour ton plaisir, voilà, c'est tout, boum, ça passe et ça repartira. Ou tu peux manger et boire les choses les plus simples comme les plus délicates, et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, notre vie sur la place publique n'est pas moins spirituelle que celle dans l'église. Vous voyez combien on a besoin de changer, et on prendra des sphères importantes de notre vie pour montrer que l'écriture a quelque chose à nous dire, que tout ça est impacté. Il est possible d'être ergo pour la gloire de Dieu, mais il est possible aussi d'être ergo pour sa propre gloire. On peut être pensionné pour son propre repos, bien mérité, ou pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui se passe sur la place publique n'est pas moins important pour Dieu que ce qui se passe dans l'église. Tout dépend de la disposition du cœur. Ce chapitre, je crois, vraiment est important parce qu'il va valoriser tout dans notre vie. On peut couper les cheveux pour devenir plus grand que Franck Provost ou pour la gloire de Dieu. Quel que soit le résultat. Je pense combien c'est important de laisser ces choses descendre en nous pour qu'on n'ait pas l'impression que ça, ici, ça c'est vraiment important. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas vrai, ça. Être la mère que tu dois être. Être l'instit, le prof, responsable du nettoyage à sec pour la gloire de Dieu. Tout ça, ça intéresse Dieu. Je dois être motivé par des valeurs éternelles. Je peux recevoir des patients vraiment pour la gloire de Dieu. Alors, je voudrais faire une lecture qui va nous permettre d'introduire gentiment notre sujet. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'introduction. Hein. Le psaume 90. Et on va s'arrêter juste sur un mot. Psaume 90, le psaume de Moïse, le seul, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière, tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Je voudrais m'arrêter juste sur un mot de ce psaume. Il s'agit, on le pense, probablement du psaume le plus ancien, le plus vieux des psaumes. Et il a pour titre « Prière de l'homme de Dieu qu'est Moïse ». Très probablement qu'il a écrit à la fin de sa vie, donc il y a plus de 3500 ans. C'était une prière qui devait accompagner la génération qui allait rentrer, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Ancien Testament, qui allait rentrer en Canaan. Moïse va mourir, il écrit cette prière pour cette génération qui va devoir maintenant conquérir la terre promise. Et ce psaume lève un peu le voile sur ce qu'on pourrait dire un peu l'intemporel, ce qui demeure toujours. Ah, ça touche, Moïse est en train de prier pour des choses qui devraient durer toujours. Il dit que la grâce de l'Éternel soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, affermis l'ouvrage de nos mains. Et ce verbe est vraiment intéressant, affermir, c'est l'idée d'établir, rend permanent. Moïse est en train de prier pour que ça cesse de disparaître, de mourir, mais fait des choses qui vont, à travers nous, qui vont rester permanents. Une œuvre qui ne va pas s'évanouir, qui va rester un peu comme l'ouvrier, qui veut faire quelque chose qui va durer dans le temps. Moïse, a presque 120 ans quand il écrit cela, malgré qu'il a 120 ans, il prend conscience de la brièveté de la vie. 120 ans. Et une des grandes vérités qu'il enseigne, c'est « la vie, ça passe ». Et quand on entend les pensionnés, un des refrains, c'est « ah, mais voilà à peine que je commence ». Ça passe très vite. Et il dit, d'abord il va penser à l'éternité de Dieu. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé le monde et la terre, tu existes d'éternité en éternité. Dieu, ça nous souffle, impossible pour nous de comprendre. Dieu qui a toujours existé, depuis toujours. Et puis il contraste avec la nature transitoire de l'être humain. Combien notre vie est brève. Il utilise toute une série d'images. 1000 ans. 1000 ans. Pour Dieu, c'est même pas un jour. Notre vie, c'est comme une veille de la nuit. Une veille chez les Juifs, c'était 3 heures. Notre vie, c'est comme un rêve. Parfois, on se lève le matin et on dit, tiens, je crois que j'ai rêvé. On se souvient déjà même plus. Notre vie, c'est comme un château de sable que l'enfant fait sur la plage et que la première vague vient et met à terre. Notre vie, c'est comme une fleur, et on a de la peine à comprendre ça. Elle vit le matin et elle meurt le soir. Et Moïse est conscient que ce qu'il écrit, il vient de le vivre avec cette génération qui ne rentrera pas dans la terre promise. Il dit, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là une génération qui sortait d'Égypte, les plus grandes promesses leur sont données, ils peuvent rentrer. Mais voilà qu'ils vont envoyer 12 espions, les espions reviennent, et ils vont croire ce que disent les espions. Oui, le terrain est extraordinaire, mais on n'est pas capable de rentrer, alors que Dieu avait dit, vous allez vaincre. Et ils ne croient pas dans les promesses de Dieu. Et donc, l'héritage qu'ils devaient recevoir, dans lequel ils devaient rentrer, ils tombent sous le jugement de Dieu. Ils ne rentreront pas. Et le bien le plus précieux qu'ils avaient, le temps, leur est ôté quelque part. Ils vont devoir tuer le temps. Ils ne rentreront pas. Pendant 38 ans, ils vont tourner dans le désert. Il y a toute une génération qui n'a pas cru, qui a désobéi, qui sera privée de la jouissance de son temps. On compte que plus ou moins 90 personnes devaient mourir par jour pendant ces 38 ans, jusqu'au moment où Moïse, Josué et Caleb auraient pu rentrer, fait que Moïse n'y rentrera pas. C'est pas étonnant que Moïse puisse dire « Nos jours disparaissent à cause de ta colère. Et nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Eux qui tournaient dans le désert. La durée de notre vie s'élève à 70, pour les plus robustes 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et notre temps passe vite, nous nous envolons. » Et je crois qu'on connaît le même problème quand on est pris dans la routine de notre vie, avec un programme tellement chargé qui fait que nos années filent et filent. Mais heureusement, il y a une solution pour nous à ce désarroi. Et c'est le verset pivot de ce psaume avec le mot-clé. Moïse dira, enseigne-nous à bien compter nos jours, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. On va parler de la sagesse ensemble. Et pour nous, chrétiens, la sagesse, c'est le fait de chercher le Christ en tout. Vous voyez, décloisonnement. La sagesse, trouver la sagesse en Dieu. Avant d'aller plus loin, on peut déjà dire que si on veut devenir sage, la première chose, c'est déjà comprendre. Et c'est dur peut-être pour la jeune génération parmi nous, que la vie passe vite. Écoutons nos aînés. Écoutons nos aînés qui nous disent, mais les habits que je mettais à 20 ans, je viens à peine de les ranger. J'ai l'impression que c'était nos vies passent vite. Nos jours sont comptés. Parfois, on vit avec l'impression qu'on va être éternel. Bon, jamais au départ, nos jours sont comptés. Et si on ferme nos yeux sur cette réalité, je pense que notre système de valeurs va être faussé. Parce que nos œuvres personnelles, faites par nous-mêmes, elles s'évanouissent, elles passent. Mais Dieu est éternel et son œuvre est éternelle. Et dans la mesure où, dans chaque dimension de ma vie, je fais ce que Dieu veut, ça va rester pour l'éternité. Et ça, c'est tellement encourageant. Jean dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce que tu fais, aussi simple soit-il, aussi routinier soit-il, est fait avec l'accord de Dieu, sous les principes de Dieu. Dieu dit que ces choses vont demeurer éternellement. C'est ça d'avoir un cœur sage. Alors je voudrais prendre un peu de temps ensemble pour développer ce que c'est cette sagesse pour nous, de rechercher le Christ en tout. On sait que le livre des Proverbes ne cesse de parler de la sagesse. Le commencement de la sagesse, dit Salomon, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance de Dieu, voilà en quoi consiste l'intelligence. Je crois que poursuivre la sagesse, ça va montrer la différence entre un cœur qui est centré sur Jésus et puis l'autre qui, pour qui ce n'est qu'une composante. La composante du dimanche ou peut-être du mardi soir. Mais la vraie sagesse, c'est de chercher Jésus en tout, de servir Jésus en tout dans notre vie. Dans le livre des Proverbes, que je vous invite vraiment à lire et méditer, la sagesse, c'est vraiment un diamant aux multiples facettes. Perspicacité, conseil, prudence, compréhension, discernement, discipline, compétence, discrétion, instruction, directive, connaissance, justice. Hein, le mot qui résume tout cela en hébreu, c'est le mot « okma », qui va être utilisé, lui et ses dérivés, plus de 300 fois dans l'Écriture. Parce que c'est un thème majeur dans la parole de Dieu. Et on pourrait dire que le mot « okma » résume un peu tout ce qu'on vient de dire, toutes ces différentes disciplines, en disant que la sagesse, c'est essentiellement une adresse, une habileté. Une habileté. L'adresse. Une habileté. On pourrait dire que la sagesse dans l'Écriture, c'est l'art de mener sa vie dans tous les domaines sous le gouvernement de Dieu. C'est ça un cœur sage. Tous les domaines de ma vie. Dieu s'intéresse à tout. Jésus est mort pour être le Seigneur de toute notre vie. La sagesse, c'est conduire chaque domaine de mon existence selon les principes de Dieu, selon le gouvernement de Dieu. J'aime bien cette formule. C'est la faculté d'utiliser les meilleurs moyens au meilleur moment pour atteindre le meilleur but. Je le redis. c'est la faculté d'utiliser les meilleurs moyens au meilleur moment pour atteindre le meilleur but. Je voudrais dire plusieurs choses sur la sagesse. Comme tout le reste sur terre, comme la vie qui nous est donnée, en dernier recours, la sagesse appartient à Dieu. La sagesse, elle appartient à Dieu. Job disait ceci, c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'intelligence. Dans le psaume 28, dans le Job 28, il dit, mais oh, si tu veux chercher de l'or et tout ça, il faut creuser. Mais la sagesse, où est-ce qu'on peut la trouver? Où? Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. J'aime ce texte où Daniel est présenté devant le grand roi Nebuchadnezzar, qui a eu des rêves, il sait même plus ce que c'est. Et Dieu donne à Daniel la sagesse des révélations. Et Daniel ne s'attribue pas le mérite, mais il dit que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est lui, c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. C'est à lui, c'est lui la sagesse. Deuxièmement, la sagesse, c'est cette capacité de Dieu, c'est ce dessein de Dieu par lequel il peut transformer un chaos, en un univers vivant, cosmos vivant. C'est ça qu'il a fait avec la terre. Il a dit qu'au début, c'était tohu-bohu, c'était le chaos. Mais la sagesse de Dieu a pu créer des choses tellement inimaginables. C'est cette même sagesse qui rentre en nous, et dans un chaos moral et spirituel, il en fait des êtres qui incarnent la vie de Dieu. Une telle sagesse vient de Dieu. Troisièmement, on peut encore dire que cette sagesse, en fait, dans l'Écriture, il dit qu'il y a une sagesse d'en haut et une sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, sagesse de Dieu, c'est Jacques qui nous dit, elle est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante, elle est pleine de compassion, de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Mais il y a une sagesse d'en bas, la sagesse humaine, on pourrait dire que c'est plus de la sagacité. C'est l'habilité humaine, c'est juste l'intuition, c'est juste, on pourrait dire, la vivacité de notre esprit, mais c'est pas la sagesse divine. Et Jacques aura cette évaluation tellement lourde. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Deux sagesses. Terrestre, qui va amener tôt ou tard désordre, mal, laideur, et la sagesse d'en haut, qui va amener l'ordre, la bonté, la beauté et l'accomplissement. Et c'est tellement triste de voir que l'homme court après la sagesse d'en bas. On cherche à être de grands philosophes pour les choses d'en bas. Mais il y a des choses qui ne sont accessibles qu'avec la sagesse de Dieu. C'est à partir de la sagesse de Dieu que la beauté peut apparaître dans nos vies. C'est lui qui l'accorde. Et je voudrais tout doucement terminer. Je ne vais pas voir tout ce qui a été préparé, mais où chercher cette sagesse? Où chercher cette sagesse? Proverbe 2 dit, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse, pour mettre le Christ au centre de tout, elle nous vient d'en haut. La question qui se pose, quelles conditions faut-il remplir pour devenir des êtres sages? C'était vraiment notre ambition. Seigneur, je veux devenir sage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Proverbe, il répond encore. Proverbe 9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Dans les livres de sagesse, la crainte de Dieu, c'est une valeur tellement importante, si souvent négligée. La clé de la sagesse, la condition pour devenir des hommes et des femmes sages, c'est la crainte de Dieu. Et ça amène une autre question. C'est quoi craindre? Des jeunes parmi nous disent, c'est quoi craindre de Dieu? Est-ce qu'il faut trembler? Est-ce que c'est ça que l'Écriture nous dit? Job 28, le texte dont je faisais référence tantôt, puis il dit à l'homme, quand il y a des questions, où est-ce qu'on peut trouver la sagesse? Puis il dit, Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et le Nouveau Testament va dans le même sens. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est deux choses. Tout d'abord, un profond respect, une révérence. un saint tremblement, un respect adorant. C'est pouvoir prendre conscience tous les jours qu'il est infiniment grand, qu'il est le créateur de centaines de milliards de galaxies. Ésaïe dit qu'il donne un nom à chaque étoile, à chaque galaxie, qu'il règne et qu'il est présent dans le passé, dans le présent, dans le futur, qu'il connaît tout. Un saint tremblement. On voit des personnes qui ont été confrontées dans l'Écriture à la présence de Dieu. À chaque fois, elles étaient remplies d'un saint tremblement. Ils prennent conscience de la sainteté de Dieu et de la gravité de leur état. Un saint tremblement. Ne craignons pas de craindre Dieu. Et en même temps, c'est un respect adorant et une profonde humilité. Une profonde humilité. L'humilité qui reconnaît que, mais tout ce que je suis, tout, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ça, ça me vient de Dieu. Tout m'est donné par Dieu. Et l'humilité me pousse à lui faire confiance dans tous les domaines de ma vie, dans tous les compartiments. Je crois que si on veut grandir dans le fait que le Christ Seigneur de tous les domaines de notre existence, on va devoir devenir sage, craindre Dieu, être humble et oser lui faire confiance dans tous les domaines de notre existence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On pourrait paraphraser ceci comme ceci, la crainte de Dieu. C'est l'habitude de cultiver une attitude de révérence respectueuse devant le souverain éternel, saint et tout-puissant de toute création. Une humble attitude de confiance et de dépendance à son égard dans tous les domaines de la vie, cela constitue le fondement sur lequel repose la véritable art de vivre selon Dieu. Mais pour cela, peut-être les musiciens viennent, reviennent, pour cela, peut-être on se dit, mais comment ça se fait que on a l'impression que cette dimension-là, elle est si peu présente dans notre société et parfois même dans l'Église. Mais parce que je crois que les choses d'en bas, les choses temporelles, sont parfois, elles sont visibles, elles sont tellement attirantes. Alors que le royaume de Dieu, les choses éternelles, elles sont invisibles. C'est plus difficile. Et si on ne fait pas attention, elles risquent de nous embarquer. Qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir choisir les valeurs d'en haut? C'est notre foi. C'est notre foi, notre confiance que même si je ne vois pas, Dieu dit vrai, je mets ma foi dans ce que Dieu a dit. La question qui se pose, c'est comment grandir dans notre foi? Je crois que notre foi, elle est proportionnelle à notre connaissance de Dieu. Plus je connais Dieu, plus je vais pouvoir lui faire confiance. Et on pourrait se poser la question, ok, comment développer cette confiance en lui, cette connaissance de lui? Dieu est une personne. Et je termine avec ça. Dieu est une personne. Comment on peut connaître une personne intimement, grandir dans la connaissance profonde d'une personne? Ainsi, je peux grandir dans la connaissance de Dieu. Tout d'abord, pour connaître une personne, il faut que tous les deux, on soit d'accord de se connaître. Il faut qu'on puisse se dévoiler. Si un des deux ne veut pas, ça ne marchera pas. Vous savez que Dieu dit, moi je veux me faire connaître à vous. Je veux révéler mon cœur. Et la relation avec lui, elle commence quand je reçois le Christ. Dieu veut vraiment une relation. Deuxièmement, on peut dire aussi que les deux parties doivent apprendre à connaître l'autre. Pas connaître des choses sur l'autre. Vous pouvez étudier la reine Mathilde. Lire tout ce qui est écrit sur son sujet et malgré tout, vous ne la connaissez pas personnellement. Et parfois, on peut avoir une juste théologie, connaître plein de choses sur Dieu et pas forcément connaître Dieu. Ce n'est pas ça dans les questions. Il est question d'une relation empirique, une vraie communion avec lui. Et Dieu veut ça. Troisièmement, dans la relation, il sera toujours question d'honnêteté, d'acceptation et de pardon. Il y a des personnes qui ne vont pas très loin dans la relation parce qu'ils se disent, le jour où l'autre va savoir qui je suis, il ne va plus m'accepter. Vous savez que Dieu dit, mais je t'ai déjà accepté, je sais qui tu es, je t'ai déjà pardonné en Jésus. Tu peux être authentique devant moi. Tu peux être vrai. Quatrièmement, la relation, elle se développe aussi par le temps que je passe. Si je n'ai pas de temps pour la personne à qui je veux rentrer en relation, l'intimité ne va jamais se développer. Ma relation avec Dieu, elle va se développer par le temps que je passe dans sa présence et le temps que je passe dans sa parole. Et enfin, cette relation, elle va se développer aussi par l'action. Quand j'apprends à connaître l'autre, j'aurai envie de répondre à ses besoins, à ses désirs. Quand j'aime Dieu, je vais prendre plaisir à accomplir sa volonté. Pour devenir sage, je dois apprendre. Cette sagesse, elle vient de Dieu. C'est une compétence que je n'ai pas. On doit la recevoir. La sagesse, nous dit l'Écriture, c'est la crainte de Dieu. C'est ce respect. C'est cette humilité. Comment grandir ? Par une foi renouvelée. On a tous un potentiel relationnel avec Dieu. Une capacité d'aller toujours plus loin dans notre expérience. Et Dieu veut cela. Dieu veut élargir notre tente pour que on devienne... Vous imaginez que ce Dieu de l'univers dit « Moi, je veux ton cœur. Je veux être ton ami, mais plus encore que ton conjoint, plus que tout ce que tu n'as jamais vécu. » Et si souvent, nous, on ferme la porte, on a besoin d'une réponse. On est donc en route dans, je crois, un point important. Arrêter nos cloisons. Arrêter de cloisonner nos vies. Dieu s'intéresse à ma gestion financière, à ma vie, à mon alimentation, à ma vie conjugale, à ma vie professionnelle. Dieu s'intéresse, il descendait sur le terrain de foot avec moi. Parfois, peut-être, il sortait parce qu'il en avait marre. Hein. Mais Dieu s'intéresse à comment tu joues de la guitare. Dieu s'intéresse à comment tu parles à tes voisins. Dieu s'intéresse à tout. Pépito, il s'intéresse à savoir comment tu fais le pont. Hein, pas les congés. Hein. Il s'intéresse à tout. Et sa vie est... Écoutez, c'est ça, c'est extraordinaire. Sa vie peut passer en tout. En tout. Il voit quand je mets les poussières en dessous du paillasson. Il veut se glorifier en tout. On chante un chant pendant lequel on mettra notre offrande à part. Et puis, on est content d'accueillir, hein, on en a parlé pendant tout l'été, hein, le couple stagiaire, ils vont se présenter, partager un peu les défis qui sont devant eux et devant nous.